Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
C'est la troisième heure du Super Moscato Show, c'est la meilleure, c'est celle qui se termine par le Kikadi.
Oui,
voilà, qui commence par le débat sur l'OM, comme souvent. Genesio, est-ce le bon choix? La question était posée le 3 juin et c'est important de remettre cette date.
A rejoint les forces armées le 6 juin 69, enrôlé dans les bérets verts.
Mon avis, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort.
Rambo.
On s'est un peu jeté dans la gueule du lion.
Ce que les autres appellent l'enfer, il appelle ça chez lui.
Le premier, alors qu'il a fait quasiment un cheval seul.
Trahi par les siens.
Parce que tu as le couperet qui est toujours sur ton dos.
Et abandonné derrière les lignes ennemies.
Parce que c'est facile de taper sur l'ambulance une fois qu'elle est à terre.
Aucune guerre ne peut l'arrêter.
Si tu penses être l'homme dans l'homme qui cache la forêt, alors que la forêt elle a pris complètement feu.
Il veut s'en sortir par n'importe quel moyen.
Je le répète, attendez la fin de la chanson pour voir comment seront payés les musiciens.
Rambo 2, la mission.
Et je m'en souviendrai toute...
RMC.
Qu'est-ce que ça vient de faire là?
Super Moscato.
C'est une ponctuation. Il y avait plein de calembours. Je comprends pas pour que ça vient de faire là.
C'est devenu une ponctuation.
Cet extrait, voilà. C'est magnifique.
Allez, cette fois, tout le monde est d'accord. Genesio veut l'OM. L'OM veut Genesio. Pour Genesio, c'est une deuxième occasion dans un grand club français après Lyon pendant 4 saisons, 2015-2019. Pour l'OM, retour à la normale après les années Longoria. Un coach français réputé. C'est aussi un entraîneur qui a le tampon Olympique Lyonnais et un coach qui n'aime pas trop la critique. On s'en est rendu compte même à Lyon. Dans un club moins exposé. Genesio, est-ce le bon choix? 32-16. Twitter, hashtag RMC Live. Je vous demande une acclamation pour celui qui a sorti info sur info aujourd'hui, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Oh,
salut
à tous. Unbelievable fact.
Fabrice, il les a enchaînés aujourd'hui. Pierre Sage et hop, une heure après, Genesio.
Tu passes combien d'heures au téléphone par jour en ce moment?
Ah, franchement, c'est dur. C'est dur de savoir. Mais
15 heures?
Non, moins quand même.
Alors, heureusement. Fabrice, quand on dit
ça,
Genesio.
C'est pas un métier pour nous, hein. J'aime pas le téléphone comme Vincent.
On va signer à l'OM.
Affreux.
Question toute simple, c'est pas officiel, mais est-ce qu'il y a plus aucun revirement possible?
J'ai appris dans ce milieu-là que tant que c'était pas signé, tout était possible. Mais en tout cas, il y a un accord qui a été trouvé effectivement entre Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'OM, hein, qui a mené les négociations. Accord autour d'un contrat de 2 années plus 1 an en option. C'était vraiment la priorité des dirigeants marseillais parce que il est fiable. Partout où il est passé, il a eu des résultats. C'est quelqu'un qui sait faire jouer les jeunes et qui peut, avec peut-être moins de moyens, en tout cas, c'est ce qu'on pense du côté de l'OM, et bien avoir des bons résultats parce que ils n'auront pas des moyens exceptionnels à l'OM financier. Et ça, que ce soit Bruno Genesio ou les autres entraîneurs auditionnés, ils le savent. Et donc, c'est lui qui a été choisi pour prendre la suite d'Habib Bey, avec qui ça va se terminer.
Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Tous les détails sur rmcsport.fr. Vincent, c'est le bon choix ou pas? T'étais sceptique la semaine dernière?
Bah, j'étais un peu sceptique parce qu'il fait partie des entraîneurs confirmés. Moi, j'aime bien Bruno Genesio. C'est un mec qui fait, comme on dit, dans le cinéma, il a la carte. Et donc, lui, il a vraiment, parce qu'il fait partie des grands, des meilleurs entraîneurs qu'on a. Quand t'es passé à Lyon, quand t'as eu les résultats qu'il a eu à Lille, que tu signes, que t'as le courage, parce qu'il faut du courage pour signer à l'OM. Mmh. Mais c'est difficile aussi de refuser. On en a parlé souvent. Quand l'OM vient te chercher, ça reste malgré tout, malgré toutes les histoires qu'il peut y avoir, malgré les déconvenues et tout, tu te dis quand même l'OM, quand même quand t'entraînes l'OM.
Comment je peux refuser, quoi?
T'entraînes pas la Motte Beuvron, quoi. T'as 80, 100 000 mecs tous les week-ends dans le stade. T'as quand même un club emblématique d'Europe et tout, et c'est compliqué. Après, je lui souhaite bien du courage, hein, et ça, ça fait peur quand même, hein, parce que quand tu, en plus là, il va subir.
La première année va être plus calme quand même normalement.
Il va subir économiquement quand même une déflation terrible parce que va y avoir quand même des comptes à rendre.
Un petit Larsen à l'antenne, je sais pas si ça s'entend, mais faut régler.
Ça va être, je sais pas qui c'est.
Ça y est, c'est bon, c'est parti.
Et donc, ça va être difficile à vivre, quoi. Ça va être compliqué. Le recrutement va être moyen. On connaît l'impatience des supporters marseillais. Il a joué à Lyon. Donc, attention, si ça tourne pas, il peut se faire crépir, mais grave. Toi, tu me dis, pendant un an, il va être tranquille. Non, pas du tout.
Il va y avoir peut-être un peu plus d'indulgence au début de cette saison, là.
Oui, voilà, je ne suis pas sûr que l'indulgence fait partie quand même du cursus des supporters marseillais, comme de tous les supporters en général d'ailleurs. Et donc, ouais, je souhaite bien du courage. Refuser, c'est dur, mais bon, je vais te dire, il va l'avoir dur, il va l'avoir très dur.
Donc, pas facile pour toi.
Non, pas Eric. Facile du tout, mais
écoute,
pour lui, on pourrait
dans les profils ou le profil qu'on nous présentait du futur entraîneur de l'OM, bon, ben il est en plein dedans, quoi. Il est en plein dans ce profil-là, puisque entraîneur français expérimenté, qui connaît bien la Ligue 1, etc. Voilà, on avait parlé de Christophe Galtier, on avait parlé de lui, on avait parlé peut-être d'un autre encore. Non, ça s'est focalisé sur ces deux noms. Vous savez, moi, ce que j'en pensais. Moi, je militais pour Christophe Galtier parce que. De partout où il est passé, il a gagné. Non, c'est mon pote, mais il n'y a pas que ça. Il a gagné, Christophe, de partout où il est passé. Bruno, il a une grande expérience. Il a fait des coups extraordinaires avec lui en Ligue des Champions. Souvenez-vous, il a un palmarès en Ligue des Champions
avec Lille aussi,
entraîneur ou avec Lille aussi d'ailleurs. Oui, tu as raison, avec Lille aussi, où il a battu pratiquement tous les meilleurs entraîneurs d'Europe en Ligue des Champions, si je me souviens bien. Il y a une stat comme ça qui circule. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est performant. Il n'y a pas de souci. Moi, quand je militer pour Christophe, c'est parce que je pense que je pensais que c'était le seul, et j'étais même pas sûr qu'il y arrive, mais c'était celui qui avait le plus de chances d'y arriver, parce que le challenge est quand même assez relevé, hein, c'est-à-dire repartir avec beaucoup moins de moyens, avec peut-être un profil un peu plus bas, et ça, parce que tu posais la question, Pierrot, je pense que les supporters marseillais préféreraient entendre que les prochains dirigeants, voire l'entraîneur arrive en disant, ben on est rentré dans le rang, on va tout faire pour, tu vois, plutôt que de faire rêver qu'on est toujours capable de faire un truc en haut du classement, de gagner des titres d'être un petit peu plus profil bas. Donc ce discours-là, il faudra l'avoir. Donc est-ce que Bruno va y arriver? Je le sais encore moins. Je disais pour Christophe Galtier, je suis même pas sûr qu'il y serait arrivé. Et pour moi, c'était la meilleure solution. Donc, je sais encore moins si Bruno va y arriver. Et je vais te dire la vérité. Je pense que non, je crains rien du tout. Mais non, mais moi, je trouve que le profil correspond à ce qu'ils ont dit. Et c'est un entraîneur expérimenté qui est calme en plus. Et contrairement, je crois que c'est Eric Roy qui disait ça un jour. Il a tout à fait raison. C'est pas parce que tu es nerveux et fada que tu vas bien à l'OM. Non, c'est pas vrai. Ça, il y a des entraîneurs calmes qui ont entraîné l'OM et qui ont performé, il y en a plein, et peut-être même que c'est une qualité aujourd'hui d'être calme dans ce milieu bouillonnant. Donc Bruno a cette qualité-là. Écoute, moi je vais lui souhaiter bonne chance parce que j'ai envie qu'il réussisse, et surtout bien malin qui pourra nous dire ce qui va se passer. Mais non, mais le problème, c'est que ça fait des années qu'on fait des pronostics sur ce président, c'est bien, ce directeur sportif, c'est bien, cet entraîneur, c'est bien, mais on le sait pas en réalité, parce qu'en réalité, c'est une osmose à trouver. Et Bruno, il sera bon si autour de lui.
Eric, avant de partir en plus, je voulais juste te poser une question, après t'es pas obligé de nous répondre. Est-ce que tu sais, toi, si Christophe Galtier a vraiment eu des contacts avec l'Olympique de Marseille ou pas pour signer?
Le problème de Christophe, c'est qu'il avait un contrat avec un club saoudien qui est très content de lui et qui était pas prêt à le lâcher. Donc d'après moi, les discussions, ça peut aller très loin. Moi, je pense que lui il serait venu en courant, en faisant des efforts financiers pour rentrer dans les clous et pour pouvoir entraîner l'OM. Sauf que dans le débat, il est pas seul, il a un club avec qui il est en contrat.
L'OM avait peut-être besoin d'avoir un coach plus rapidement plutôt que
et surtout qui coûte zéro, quoi, tu vois.
Oui, voilà, donc
Christophe n'est jamais rentré en discussion par respect pour son club, et d'après moi l'OM, quand ils ont dû se renseigner au niveau du club pour savoir comment ça allait coûter, c'était trop cher sûrement. D'après moi c'est ça.
Parce que si tu dois payer un bayat pour Neom plus le bayat de Grégo Alorenzi qui avait signé à Nice, ça commence à faire beaucoup quand même.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est surtout que on commence bien l'année quand même. On prend un directeur sportif qui a signé un contrat, donc
ça c'est beau, ça. Le bon choix, Stephen Brun.
Bah, Eric a dit que c'est déjà le bon choix par rapport aux critères qu'avaient Stéphane Richard et Grégory Lorenzi dans le cahier des charges. Il répond totalement au cahier des charges. Ensuite, tu t'aperçois quand même que l'Olympique de Marseille, ça reste mythique quand même comme club à entraîner, parce que Bruno Genesio part d'un club, Lille, qui est quand même plutôt
qualifié en Ligue des Champions,
qui est quand même plutôt stable. Il n'y a pas trop de drama avec un public qui est plutôt soft par rapport à ce qu'il va découvrir à Marseille, mais quitter Lille alors que tu pourrais rester pour aller entraîner l'Olympique de Marseille, quand on connaît les déboires financiers de Marseille qui va peut-être réduire un petit peu la voilure, quand tu sais que t'es quand même sous la menace éventuellement d'être suspendu de Coupe d'Europe et de pas jouer l'Europa League, ça veut dire que ça fait kiffer quand même d'aller entraîner l'OM pour quand t'es un entraîneur de football. Ensuite, c'est difficile à juger. Bruno Genesio, il s'engage à l'Olympique de Marseille. Il sait exactement le contexte de l'Olympique de Marseille. Il sait exactement ce qu'il va vivre. Il sait que c'est compliqué comme club, qu'il y a la pression du public, qu'il y a la pression des résultats. Donc, je pense qu'il s'engage en connaissance de cause et qu'il a travaillé, justement, et qu'il va travailler cet été à subir des choses peut-être qui sont peut-être pas faciles pour lui. Ce qu'il a subi à Lyon, déjà, ça l'a aidé, je pense, pour la suite de sa carrière. Mais tu signes pas à l'Olympique de Marseille en ne connaissant pas tous les tenants, les aboutissants de ce que tu vas vivre et ce que tu vas subir. Donc
oui, mais même en te lançant, t'es toujours surpris.
Oui. Mais tu pars quand même. Tu sais.
Ça te prépare pas. Tu peux savoir que ça te prépare.
Tu peux éventuellement te préparer à te couper de certaines choses au quotidien pour pas lire des choses. Tu peux te préparer mentalement. Je pense qu'il va le faire. Bruno Genesio, après le bon choix, tu le sauras qu'après 5-6 mois de compétition. Pierrot, c'est difficile à dire le bon choix. Quel recrutement il va faire avec Grégory Lorenzi? Comment ils vont faire les marges de manœuvre au niveau des salaires et des joueurs qui vont partir? Voilà. Tu le sauras après. Après, sur le papier, sur le cahier des charges, il répond à beaucoup de critères quand même.
Et puis d'entendre, t'avais Lorenzi.
Oui, bien sûr.
Lorenzi, non, c'est un binôme. Tu sais pas si Lorenzi, c'est pas un faisant de plus. Hein.
Non, mais c'est surtout
on va attendre pour le coup de voir. Il a fait du bon travail à Brest.
Hein. Oui, mais tu sais rien. Tu sais pas du tout. C'est surtout que. C'est la forme d'être à l'OM. Hein.
Non, mais c'est surtout qu'on sait aujourd'hui que ce qui a plombé la saison dernière, notamment, c'est pas que ce qui se passait sur le terrain. On sait aujourd'hui que De Zerbi est parti parce que ça se passait mal avec ses dirigeants, que ce qu'on nous expliquait, la soi-disant la solidarité de façade était en réalité une faisanderie, et que l'ambiance était délétère au point que même les joueurs, à un moment donné, ont été impacté puisqu'il se serrait plus la main des dirigeants. Enfin, il y a des histoires pas possibles. Donc déjà, si on arrive à retrouver au-dessus de l'équipe un peu de stabilité avec des gens qui travaillent en bonne intelligence pour le club plutôt que pour leur gueule, et que on laisse travailler Bruno tranquillement, et que dans la communication on se trompe pas, et parce que les supporters marseillais sont prêts à entendre les choses, il faut juste ne pas se tromper dans la communication parce que ça part déjà mal. Déjà, le président qui vient d'arriver, il a déjà fait une fève quand il est arrivé. Donc si on peut éviter d'en faire d'autres, ce serait pas mal. Et on laisse travailler Bruno. Et puis voilà, on fera les codes.
Après, Eric, il faudra qu'il apprenne à faire peut-être quelque chose, améliorer un point. C'est qu'il faudra qu'il arrête, parce que Bruno Genesio, il a du mal parfois avec les critiques, quelle qu'elle soit. Et il a besoin d'y répondre à chaque fois. Et à Lille, cette saison, après Aston Villa, ça s'est mal passé.
Fois.
Oui, mais il y va sur la longueur. C'est un truc qui compte énormément pour lui. Je comprends pas pourquoi vous avez dit ça. Je comprends.
Non, mais c'est pas la première fois.
Oui, et ça, il l'a fait régulièrement. Alors, évidemment, Rennes, il le faisait à Lyon. À Rennes, il l'a fait dans un contexte plutôt tranquille. Rennes, c'est pas le club le plus chaud de France.
Est-ce qu'il le fait pas dans des contextes tranquilles et que dans des contextes tranquilles?
Non, parce que je pense que c'est parce qu'il évite mal les critiques. Et s'il, il faut qu'il s'en empêche de le faire souvent à Marseille, parce que ça va se retourner contre lui.
Après, il le sait quand même. Si tu vis mal les critiques, c'est pas l'Olympique de Marseille.
Plus fort que toi, le challenge, comme dit Vincent, tu peux pas le refuser.
Mais je suis pas sûr qu'il fasse une bascule monumentale. Non, mais
regarde,
en termes de
regarde le coach, ils ont du mal avec ça. Même Bey, Habib Bey, qui était rompu aux médias, qui fait des médias depuis 10 ans, il a dû se mentaliser avant en disant le contexte, les radios, les journaux. Il a fini par répondre à tout le monde.
Je suis pas persuadé, quand t'as l'impression que tu supportes les critiques, il y en a pas grand monde, qui supporte.
C'est dur.
Parce que ça va très loin, ça va de plus en plus loin.
Donc
personne ne les supporte en vérité. Ouais. Et lui, on le cite, mais bon.
Alors Genesio, est-ce que bon choix?
Zerbi, il a explosé, c'est barré parce qu'il supportait plus rien. Hein.
C'est ça. 32-16, Paul. Bonjour Paul. Salut Paul.
Bonjour à tous.
Salut Paul.
Salut Paul.
Ça va bien toi, Paul?
Impeccable.
Qu'est-ce que t'as pas, toi?
Ça va, tranquille.
T'es content pour Genesio?
Ben, je suis content, oui et non, parce que voilà, c'est un choix par défaut, comme j'ai dit au standardiste là. Je pense qu'effectivement, comme disait Eric, Galtier, c'était pour moi le meilleur choix, parce que Galtier, pour moi, c'est un Mourinho français. C'est-à-dire qu'il a la poigne, et il a le charisme.
Ouais, mais trop parisien.
Mais ça, c'est pas grave. Mais qui n'aurait pas été entraîné à Paris s'il avait reçu une offre, personne.
Eric,
donc, il faut arrêter l'hypocrisie, là. Et donc, Galtier, puis en plus, il a gagné quand même un championnat, etc. Et à Marseille, moi, je pense qu'il faut un coach qui soit a été un très grand joueur, soit a été un entraîneur qui a gagné des choses. Sauf que Habib Bey, même j'ai envie de dire, malheureusement, c'était pas son cas. Et moi, je pense que Genesio, quand on parle d'un point de vue simplement, uniquement footballistique et tactique, c'est un super entraîneur. On l'appelait Pep Genesio. Ah mais, et qu'effectivement, il a battu les plus grands entraîneurs, etc.
Ouais, mais Paul, après, Paul pour accueillir un coach qui a déjà gagné, est-ce que l'OM est attractif pour des coachs qui ont déjà gagné? Je ne suis pas sûr, Paul.
Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une hérésie, c'est qu'on a, eu des coachs qui étaient en capacité de gagner, auxquels on n'a pas offert les capacités financières de recrutement. Et vraiment, hein, moi, je pense à certains coachs, à Bielsa, etc. Enfin, il y en a eu des coachs, quand même, qui auraient pu faire quelque chose, mais ils n'avaient pas les capacités financières. Et des coachs qui, pour moi, les avaient pas. Là, on a ouvert le robinet et on leur a permis de faire de
Bielsa recrutement. Bielsa avait une belle équipe, quand même, hein. Bien ça, c'est l'époque Thauvin, Payet, c'était Gignac. Très correct, hein, quand même. Gignac. Ouais, t'exagères un peu, Paul, quand même. Merci tout de même pour ton appel, évidemment. On a le droit d'avoir des avis différents. Et voilà, Bruno Genesio, l'OM, oui. Ça fait toujours autant parler, ça continuera.
Le vélo, alors lui on en parle beaucoup également, hein, depuis toute la saison dans le Moscato Show. Tadej Pogacar est-il déjà le GOAT du cyclisme? C'était un débat après le Tour des Flandres et avant Paris-Roubaix. Avant Paris-Roubaix, qui n'a pas gagné, Pierrot.
Déjà le GOAT alors qu'il lui reste encore peut-être des dizaines de titres à aller chercher.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show. On va débattre de Pogacar dans un instant. Et ensuite, ce sera le Kikadi, Adrien.
Kikadi avec un festival d'humour proposé ce jour-là par Stephen Brun. Des jeux de mots, des jeux de mots, des jeux de mots.
Allez, Pogacar est-il déjà le GOAT du cyclisme? Vincent règle le problème sur RMC.
Il n'est programmé que pour tuer.
Il ne reste plus que 200 mètres à Tadej Pogacar pour mettre au tapis tout le monde.
Schwarzenegger est le Terminator.
Il y a toute une histoire, un story, un story télé.
Une apparence humaine.
Come with me if you want to live.
Mais un corps d'acier.
Il n'arrive pas avec l'œil bouillonique là comme ça.
Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent.
Telling, oui, sur une télé. Story, telling.
Ils sont là pour se battre.
Bon, ils sont revenus, ça foutu et suspect chiche coquier.
Cette fois, il revient.
J'ai envie de voir la fin, une fin hollywoodienne. Hollywoodienne où le mec il va s'en sortir.
Arnold Schwarzenegger.
Pogacar.
Et le Terminator.
Le dernier film de Clint Eastwood.
Moscato, il va te régler le problème.
Une fin est chouchienne.
C'est sûr, mais tu es obligé de le mettre.
Oui.
Vous y êtes aussi en bonne position, quand même.
On est toujours, ce fait bureau.
Alors, on est toujours, on se passe le maillot jaune.
Nous accueillons Jérôme Pinault pour parler vélo. Salut Jérôme.
Comment il va, Jérôme?
Salut les copains, ça va.
Et Maria Azé qui revient du Tour des Flandres. Salut Maria.
Salut Maria.
Donc, ça fait 2-2 pour Pogacar. Milan-San Remo, le Slovène donc enchaîne avec le Tour des Flandres. Il a gagné parce qu'il était plus fort, Vincent. À 27 ans, son palmarès est déjà colossal. Et alors, c'est vrai qu'il n'est pas encore au niveau de celui de Merckx, mais il est en train de réaliser un truc qui est inédit. Ce serait de faire le 5 sur 5, les 5 monuments, San Remo, Flandre, Roubaix, Liège et Lombardie. Pogacar est-il déjà le GOAT du cyclisme? Certains le pensent, comme Jérôme Pinault, comme Vincent Moscato. Peut-être que vous allez trouver de la contradiction dans ce débat, je l'espère. Maria, on va faire le point, en tout cas, sur les palmarès. Pogacar, clairement le meilleur de sa génération, et on s'en est rendu compte hier.
Oui, tout à fait. On avait un peu vendu la guerre des étoiles avant le Tour des Flandres. Au final, ça n'a pas duré très très longtemps. Seul Mathieu Van Der Poel a été capable de suivre Tadej Pogacar hier avant de craquer complètement dans la dernière ascension du Vieux Coirement à 20 km de l'arrivée. À l'arrivée, le Slovène est cuit mais heureux.
Super happy, yeah. It's an amazing day.
Je suis super content, c'est une journée incroyable et j'ai une saison parfaite jusqu'ici. Tous les compétiteurs ont répondu présent aujourd'hui, ont couru avec le cœur, c'était un jour de course incroyable.
Alors face à un tel coureur, difficile pour les adversaires d'exister. À l'arrivée, le premier français, Christophe Laporte, qui termine 9e, est complètement résigné.
Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est le plus fort, c'est nettement le plus fort, donc il n'y a pas de tactique qui rentre en jeu quand c'est comme ça. C'est juste les gens qui parlent et ceux qui peuvent, ils s'accrochent et au bout d'un moment, tout le monde craque et ça fait deux monuments pour lui.
Alors avec deux des cinq monuments en poche, le Slovène est bien parti pour remporter tous les monuments cette saison, ce que personne n'a jamais fait. Mais pour ça, il devra s'imposer sur Paris-Roubaix, dimanche, chasse gardée de Mathieu Van Der Poel qui a remporté les trois dernières éditions. Le Néerlandais battu hier se méfie.
Il a déjà montré l'année passée que c'est aussi son terrain, donc il peut gagner partout comme j'ai déjà dit.
Ouais, je sais quoi faire.
Van Vanderpool au niveau d'hier où il a déjà bien tenu. Tadej Pogacar pourrait rencontrer quelques difficultés sur un terrain où il n'y a pas de côte pour lâcher le petit-fils de Raymond Poulidor.
Alors donc face à ses contemporains, il est au-dessus. Face à l'histoire, on peut le comparer quand même à Eddy Merckx. Pogacar se rapproche mais il n'y est pas encore.
Hein. Ouais, surtout au nombre de monuments, il se rapproche quand même. Eddy Merckx en a 19, Pogacar en a désormais 12 depuis sa victoire hier. Il pourrait en remporter donc 3 de plus cette saison. Pour vous donner un ordre d'idée, derrière, Mathieu Van Der Poel est encore loin avec 8 monuments. Bernard Hinault en avait 5, Jacques Anquetil 1 et Miguel Indurain n'en a jamais gagné. Tadej Pogacar se dirige aussi vers son 5e Tour de France. Voilà. Donc je vous citais un petit peu les 5 qui l'ont déjà gagné. Hein. Évidemment, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Il pourrait donc rentrer un petit peu dans ce cercle Tadej Pogacar. En titre de champion du monde, Pogacar en a 2, Eddy Merckx 3, mais le Slovène, on l'a pas compté dans le tableau. Mais le Slovène, il pourrait quand même bien égaler Eddy Merckx en titre de champion du monde à Montréal cette année en remportant son 3e maillot arc-en-ciel de suite, ce que Eddy Merckx n'a jamais fait. Ajouter à ça un titre de champion olympique en 2028, une Vuelta pour avoir remporté les 3 grands tours et il aura clairement terminé le jeu. Il n'a que 27 ans en plus, donc il a encore le temps de construire sa légende.
Merci Maria. On retient quand même qu'il n'a pas encore 5 Tours de France qu'il n'est pas encore au niveau de Merckx sur les monuments. Est-ce que pour toi, il est quand même déjà le meilleur de l'histoire?
Il est sur la piste parce qu'il est lancé. Les temps de passage sont très bons pour lui. Je pense que c'est le mec à le gagner le plus à 27 ans. Je crois qu'il est au-dessus de Merckx et des autres. Donc oui, il est en piste. Il n'est pas encore puisqu'il a pas. Il va falloir qu'il gagne 5 Tours de France, 6 tours s'il veut être le meilleur. Donc
il le sera.
Mais là, il va l'être. Oui, il va l'être. À moins qu'il.
Oui, mais là voilà. Actuellement, il l'est pas encore.
Mais il est pas encore parce que l'âge est là. Il a pas pu commencer le vélo à 12 ans, Pierrot.
Pierrot, non, toi, mais tout à l'heure tu.
Oui, mais je suis persuadé que la qualité, c'est le GOAT. Pour moi, la qualité, c'est. Allez, c'est Eddy Merckx, c'est pareil qu'Eddy Merckx. Après, au-dessus, on va voir, le temps va nous le dire. Là, actuellement, la qualité du mec, c'est les grands, c'est Hinault, c'est Eddy Merckx, c'est tout ça. C'est le taulier avec peut-être un plus, c'est-à-dire avec ce que n'avaient peut-être pas les autres, c'est-à-dire une préparation physique très spécifique qui nous permet, entre les courses, de pouvoir récupérer. À l'époque, je ne suis pas persuadé que la préparation entre les courses était très bonne. Ça veut dire que les mecs, quand même, c'était un exploit d'enchaîner des courses comme ça de 10 jours parce que, bon, mais encore une fois, c'était pas les mêmes vélos, les mêmes. Là, je pense que le confort qu'il a technique au niveau de sa santé et tout lui permettra d'être le meilleur. Lui permettra. Mais intrinsèquement, des Merckx, c'est tout ça.
En termes
de qualité, c'est comme Merckx, c'est tout ça. C'est des mecs énormes. Après, te dire qui est meilleur que l'un ou l'autre, non, j'irai pas jusque là parce que j'ai trop de respect pour des mecs comme Merckx ou Hinault et tout ça. J'ai trop de respect pour eux.
Jérôme, est-ce qu'il est déjà le GOAT de ton sport, Tadej Pogacar?
Oui, assurément, et c'est pas faire offense à mes anciens, à nos aînés, parce que Merckx a été une légende et Bernard Hinault l'est aussi, mais Tadej Pogacar est déjà à leur niveau parce que Tadej Pogacar semble invincible et il est invincible. Moi, pour avoir discuté hier avec un peu son entourage et croisé Mauro sur le chemin retour, Tadej Pogacar n'a qu'une idée en tête, c'est d'être finir la saison invaincu.
D'accord.
Donc il est prêt pour ça et aujourd'hui avec la concurrence, Tadej Pogacar est slovène, il n'est pas belge, il n'est pas hollandais. Et à l'époque, Eddy Merckx se battait principalement contre ses compatriotes, quelques Français, quelques Hollandais, des Espagnols, des Italiens, mais il était seul sur sa planète. Aujourd'hui, c'est très différent. Et surtout,
il y a du monde autour.
Avec la manière dont il aborde les courses, aujourd'hui, il gagne le Tour des Flandres en 6h20. C'est un record. Il les use et il les achève à chaque fois, et quel que soit le terrain. Alors ça, c'est à la façon d'Eddy Merckx. On a entendu Bernard Hinault aller gagner Paris-Roubaix en disant c'est une saloperie, mais je me devais de la gagner. Bah, il est de ce tempérament-là, Tadej Pogacar. Mais encore en plus de cela, il en fait une obsession. Et il a échoué une première fois, il va y retourner la semaine prochaine. Et s'il n'y arrive pas la semaine prochaine, il va y retourner encore et encore pour battre tous les records. Donc oui, pour moi, Tadej Pogacar est le GOAT de mon sport. Et actuellement, j'irais même que c'est l'un des plus grands talents du sport actuel, parce que il domine tellement son sujet et oui, surtout et dans tous les domaines qu'il est et il est juste impressionnant, et c'est déjà une légende.
Il y a pas un sport où un mec domine comme Pogacar. Il y en a pas.
Actuellement, tu veux dire?
Actuellement, il y en a.
Mais sachant qu'en plus, Denis, il y a différentes disciplines, quoi. C'est-à-dire qu'il va sur les pavés, il gagne. Il va dans la montagne, il gagne. Mais en Sanremo, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux et il gagne quand même. Tu vois,
ce qui fait Vincent, c'est Usain Bolt. Il y a eu Usain Bolt qui battait tous les records, qui gagnait à chaque fois, invaincu. Ce qu'il est en train de faire du Bolt à ce niveau-là de.
Parmi les grands sportifs. Bolt, parce que t'es moins longtemps quand même.
Oui. Mais t'as raison sur cette domination et sportive.
Carl Lewis, davantage.
Et même psychologique, parce qu'à l'époque de Bolt, les mecs s'entraînaient pour battre Usain Bolt, mais sur la ligne de départ de 100 mètres, les mecs se battaient pour la deuxième place parce qu'ils savaient que Bolt allait trop vite, et c'est un peu le cas avec Pogacar. Maintenant, moi, c'est compliqué. Alors, Jérôme, c'est compliqué pour moi de dire que Pogacar est le GOAT quand il n'a pas.
Eu autant de
ouais, quand il a pas battu
comparer les années, c'est compliqué.
Exactement. Moi j'ai pas assez de recul sur le coup de pédale de Eddy Merckx, sa façon de, moi ce que je peux constater, et au basket il y a souvent le débat du GOAT. Jordan pour moi est le GOAT, mais n'a pas c'est pas lui qui a le record de titre NBA, mais il a des records que d'autres n'ont pas. Là Pogacar,
j'aimerais bien le voir sur le tournoi des Jordan quand même.
Méfie-toi quand même. Mais le problème c'est que moi j'attends qu'il batte, qu'il détrône un record d'Eddy Merckx pour parler de GOAT. Parce qu'aujourd'hui, t'as deux coureurs qui ont couru à deux époques différentes. Tu les départages comment en fait? C'est pas la même concurrence, c'est pas le même matériel, c'est difficile. Donc moi, j'attends que Pogacar.
T'imagines la préparation de Bernard Hinault quand il s'entraînait?
Oui, mais t'es obligé par rapport à tous les sports. Dans tous les sports, t'es obligé de prendre un
talent énorme. Moi, je suis obligé de prendre les titres en fait. Pour l'instant, Pogacar, il va y être, mais il n'y est pas pour maintenant.
T'es obligé de prendre les titres, je suis d'accord avec toi, mais tu peux dire aujourd'hui que l'autre, il écrase tellement la concurrence que finalement.
Mais Eddy Merckx, il est déjà.
Oui, mais il y a moins de concurrence. Je pense que il a parlé de concurrence tout à l'heure, Jérôme. Je pense qu'à l'époque, il y a moins de concurrence. Je le pense.
Il y a sûrement des générations.
Regarde aujourd'hui, il a de la vraie concurrence autour de lui. C'est ça le problème.
Denis, moi je viens dans ton sens où, par exemple, ce week-end, on a présenté avec Maria cette espèce de guerre des étoiles. Mais faut prendre les garçons qui arrivent après Mathieu, après
Très Tadej. Fort.
C'est Mathieu, c'est Evenepoel, c'est Van Aert et Mats Pedersen. Je vais jusqu'à Mats Pedersen. Ce sont des phénomènes. C'est-à-dire que coureur parmi ces cinq-là est français. Chez nous, c'est une star. C'est la star du pays parce que ce sont des garçons qui ont été champions du monde, qui ont gagné les grandes classiques, qui dominent tous les
trois fois déjà les Flandres.
Mais ouais, Mats Pedersen, podium sur les Flandres, champion du monde. Non, je veux dire, c'est des très très grands.
Mais oui, donc non, moi je pense que la concurrence, c'est pas que ça le départage, mais au moins tu te fais l'idée que lui va gagner le tour. Oui. Dans trois mois, il va gagner le tour.
Enfin,
Mais je suis d'accord avec Stephen que pour comparer les époques, il faut regarder le palmarès parce qu'on n'a pas d'autres éléments. Voilà.
Mais l'autre, il est à 19, là il est à 12, il va passer à 15.
Quel est le temps?
Avec le temps qui lui reste, oui, ça va aller.
Merckx, combien il mettait pour faire un. Pour faire
3 jours.
Là, il a tourné plusieurs premiers
labyrinthes. Non, mais en plus, si tu veux, à l'époque. C'était pas le même parcours du tout. Là, aujourd'hui, le Tour des Flandres est devenu pratiquement une espèce d'étape de moyenne montagne. Il y a des monts en pavé. Il y a plus de 3000 mètres de dénivelé. Ouais, Jackie Durand, le français, le dernier français à avoir gagné le Tour des Flandres. Il n'y avait pas tout ce dénivelé-là. C'était pas du tout le même parcours. Mais il a gagné le Tour des Flandres. Peu importe. Il y avait de la concurrence et il fallait être le premier des 200 furieux au départ. Mais aujourd'hui, avec le parcours actuel, mais le matos aussi a évolué. C'est-à-dire que c'est peut-être plus dur aujourd'hui, ok, mais le vélo est plus léger. Il y a plus de développement. C'est-à-dire qu'à l'époque, là aujourd'hui, les coureurs ils mettent un 32 en petit plateau, ils montent partout, ils montent aux arbres avec le vélo. À l'époque, c'était pas possible. Les braquets n'étaient pas la même. Donc, on peut pas comparer tout ça. Parce que si on mélange tout, on va pas pouvoir faire de comparaison. La seule chose qui est sûre.
Ce que j'ai aimé, Jérôme, c'est le père de Van Der Poel qui disait justement pourquoi on reprochait à Van Der Poel de ne pas avoir attendu Van Poel pour faire le relais. Il a dit, mais s'ils attendaient Van Poel, c'est pas les champions. Non, mais c'est pas les champions. C'est-à-dire que Van Der Poel, il a voulu aller lutter à armes égales.
Mais ça, est-ce que c'est pas une erreur tactique, Jérôme?
Non. Tu peux pas gagner le Tour des Flandres en étant un ratagaz, un gars petit, un pisseur.
C'est pas la question.
C'est-à-dire qu'ils sont entre têtes d'affiche. Ils sont deux grands champions.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il paye son orgueil
L'orgueil. Il n'est pas passé. Tu sais, tu peux passer un relais à 100%, mais tu peux aussi passer un relais en regardant sous la savate. C'est ce qu'il a fait. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si Mathieu ne roule pas, il se passe quoi? Remco rentre. Tadej, c'est Tadej qui a joué avec Remco. Quand il est rentré à 4 secondes, il a remis coup de gaz, il n'est jamais rentré.
Puis après, il serait ressorti en plus, Pierrot, après, sûrement.
Donc, sur un parcours aussi difficile, il l'aurait
toujours dit-il que tactiquement, c'est quand même pas le plus malin de ce qu'a fait Van der Poel, malgré tout. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez.
Mais
qui te dit que ça lui aurait donné plus de chance s'il avait attendu Van der Poel?
C'est ça le truc. Mais parce que tu vois bien.
C'est encore pire.
Parce que tu sais parfaitement qu'à un contre un contre Pogacar, t'es mort.
Ouais, faut être deux. Faut prendre des relais, tout ça. Tu peux quand même.
C'est évident.
Il faut juste avoir. Van der Poel et Van der Poel, ils se seraient pas alliés les deux contre Tadej
Pogacar. Mais c'est ça qu'ils devraient faire.
Mais ils peuvent pas. Ils se détestent les deux.
Et ben, c'est là où je te dis que leur
sur un final à plat, ils auraient pu s'allier en disant on attaque chacun notre tour et c'est à Tadej de faire les efforts. Mais là, il y avait encore une fois le Quarmont, une fois le Paterberg. Le Paterberg, je disais tout à l'heure dans notre podcast, si tu montes à pied quand t'es pas un coureur cycliste professionnel. Le mec, il met un coup de gaz. Et Evenepoel, dans le passage du Paterberg, il a voulu passer devant pour pouvoir monter à son rythme, c'est-à-dire faire ralentir. L'autre, il fait ce qu'il veut sur un circuit comme ça.
Rouler seul avec un, voire deux mecs derrière toi, c'est pas plus fatigant que rouler à deux avec un Van der Poel qui prend des relais quand même.
Oui, mais ça c'est logique.
C'est quand même
c'est
le minimum.
Logique. Après, si les mecs ne s'entendent
ils veulent
pas,
connecter.
C'est leur faute. Et le papa de Mathieu Van der Poel, qui a été un aimant champion aussi, il a ajouté, Denis, bah si Tadej Pogacar n'était pas là, mon fils en aurait gagné 6.
Le podcast dont parle Jérôme, c'est Grand Plateau.
Grand Plateau.
Magnifique podcast vélo d'RMC.
Il y a du rythme.
Magnifique, n'exagérons rien non plus.
Ah, ça marche.
Dis-moi, pour vendre un peu la carte Eddy Merckx, est-ce qu'il n'a pas un truc de plus, c'est qu'il a traversé des époques différentes et qu'il a eu, lui, il a battu des champions d'époques différentes?
Je sais pas, en tout cas j'espère que pour Tadej Pogacar, lorsque la carrière sera terminée, quand les gens du milieu et toutes les personnes qui croiseront Tadej auront autant de respect et d'admiration qu'on a pour Eddy Merckx, parce que moi je l'ai connu en soirée et plus sur le vélo évidemment, mais pour avoir couru dans une équipe belge,
c'est pas Eddy Merckx, non,
beaucoup plus populaire Eddy Merckx qu'Eddy Barclay, je peux te dire, et partout où il vient Eddy, c'est un respect de toute la communauté cycliste, parce que c'est un coureur évidemment, tout le monde se caguait dessus dès qu'il était au départ d'une course parce qu'il y avait Eddy Merckx.
Je
parle à toutes les générations aujourd'hui, ils connaissent Eddy Merckx.
Jérôme, juste pour dimanche, on va en parler toute la semaine, mais là, dans l'état de forme dans lequel il est, tu le vois gagner là, c'est sur lui que tu mises?
Beaucoup plus difficile de mettre le grand favori. Pour l'instant, pour moi, Mathieu reste le favori, Mathieu Van Der Poel. Pourquoi? Parce que c'est à plat et qu'il a beaucoup plus de capacité, de son potentiel physique est plus fait pour Paris-Roubaix maintenant. Entre l'un et l'autre, on va pas se tromper de beaucoup.
Les boss, c'est quand même l'arme absolue pour Pogacar. C'est-à-dire que dans pas de boss, il a personne.
Pas de boss, c'est-à-dire que Tadej Pogacar profite surtout du dénivelé et de la pente sur les monts des Flandres qu'il n'y a pas à Roubaix. Là, il va falloir jouer avec la puissance à plat. Et à ce petit jeu, Mathieu Van Der Poel a quand même montré ce week-end qu'il était en excellente forme. Donc, plus difficile pour Tadej Pogacar.
Il y a 15 jours, pas en forme, mais qu'il en forme.
C'est correct. Même si l'année dernière, il y avait moins d'écart entre Van Der Poel et Pogacar que hier.
Par contre, pour ce week-end, si on veut mettre un peu plus de suspense, que évidemment, ce sera sur RMC, il y a 4 mecs qui sont derrière, parce que Remco Evenepoel vient d'annoncer qu'il n'ira pas. En revanche, Mats Pedersen et Wout Van Aert, plus Florian Vermeersch, voire Jasper Philipsen, seront des acteurs principaux, ce qui rendra la tâche un peu plus difficile.
Ce qui serait bien, c'est qu'Eddy Merckx le fasse
Et le blaireau.
Je mets plus une pièce sur le blaireau que sur Merckx.
Pogacar est-il déjà le goat du cyclisme? Nous avons Florent au 32-16 de Périgueux. Salut Florent.
Salut Florent.
Salut l'équipe.
Salut Florent.
Je suis étonné, pour une fois, je suis d'accord avec Denis. C'est rare. C'est très rare.
C'est genre de
dire. Ouais, ça, comme quoi tout peut arriver.
Ça me touche le nid de Pâques.
Vous avez dit beaucoup de choses que j'avais l'intention de dire. Donc je vais essayer d'être un peu original. Et je pense tout simplement que cette saison, Tadej, il va finir le jeu, comme on dit. Il va gagner les 5 monuments en une année, ce qui n'a jamais été fait. Et il va remporter la Vuelta. Et comme ça, il aura tout gagné. Voilà. Et après, il peut prendre sa retraite à 28 ans, tranquille. Voilà, pour moi, il est sur un petit nuage, quoi. C'est ce que je disais au standard. Il fait passer des mecs qui ont tous des liserés de champions du monde sur les manches. Hein. C'est pas des facteurs, là. C'est que des champions. Evenepoel, Van Der Poel, tout ça. Van Aert, qui a été multiple champion du monde de cyclocross. Pedersen, il les fait passer pour des touristes. Il est en train de il les démonte à chaque fois, en fait. Milan San Remo, il tombe à 30 bornes dans un moment critique. Il rentre, il gagne. Enfin, moi, je pense que cette année, il marche sur l'eau. il va tout écraser.
Invaincu. Après, on dit qu'il va s'arrêter tôt, il le laisse entendre, mais non, tu t'arrêtes pas, c'était le meilleur.
C'est ça, après, il y a un truc qu'il devrait faire, que personne n'a jamais fait, c'est gagner toutes les étapes du Tour de France.
T'imagines? Tu fais les sprints et tout.
Bon, et vous savez que lundi prochain, on fait le même débat, mais tout sport confondu. Une fois qu'il aura gagné le Paris-Roubaix, ouais.
L'appréhension principale de son staff, c'est après Roubaix, s'il gagne, qu'est-ce qu'il va vouloir faire?
Tu sais que Steve, il est persuadé que le GOAT, c'est Jordan. Tout sport confondu, c'est Jordan. Hein.
Federer ou Jordan?
En 1, Jordan, en 2, Federer.
D'accord. Ouais. Et donc, et en 3, Mohamed Ali, bien sûr.
Et en 4, Wemba Yama. Et en 5,
Mike Tyson, 12 ans, ouais.
Le problème, c'est que le livre de Mike Tyson, la fait d'affaires redescendre.
Usain Bolt non plus.
On parle de sport, on parle pas de jeu. D'un ami, entre 4 ou 5, tu fais 2 mètres.
On parle
de sport de haut niveau. Les mecs se rentrent dans la gueule. Tu vois, les mecs, on est bien. C'est un truc, pas de. À l'école, qui joue au basket? Les filles. Donc, on parle de deux mecs. Voilà,
je crois que je vais vraiment organiser. On va filmer ça à un entraînement de basket avec 20-20. Il va prendre des énormes écrans dans le dos.
Un peu de fractionné là.
Il a fait à La Rochelle avec Winnie Antonio un peu.
Ouais, vous entraînez
deux fois par jour.
Deux fois par jour. Ah ouais. Matin, midi et midi.
Tu viens la facilité que c'était le basket pour un joueur comme Antonio qui est
très fort. Pour
t'as joué au basket avec Antonio?
Non, bien quand on était à La Rochelle, il mettait pas
de panier. Moi, ce que je me rappelle de La Rochelle, c'est qu'il y avait un espèce de petit panier pour viser avec la touche. Vincent a fait 0 sur 28 quand même pour mettre
non,
le
ballon. Non, c'est pas vrai.
Mais non, c'est pas. Non,
c'est minable. Et même Roland Garros l'a dit.
Le Super Moscato Show,
c'est le Kikadi qui arrive tout de suite. Et ce jour-là, restez bien là. Je ne sais pas qui va gagner ce Kikadi du jour, mais en tout cas, il y a une sorte de one-man show, de stand-up en direct de Stephen Brun qui est très, très rigolo. Oui. Ah. Oui, on peut le dire.
Allez, on revient tout de suite sur RMC pour le Kikadi.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, il est 17h45, top jingle.
RMC,
le Kikadi
du Super Moscato Show.
Le Kikadi du Super Moscato Show oppose Thibaut à Xavier. L'enjeu, c'est un week-end de divertissement de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel casino Partouche. Thibaut, tirage au sort des équipes. C'est moi qui ai le premier point, donc mon coéquipier sera.
Ton coéquipier sera Eric Dimeco.
Eric Dimeco, très bien, magnifique.
Stephen avec Vincent, les deux coqs ensemble, double boule noire. Et demain, vous aurez le best-of dans le journal moyen de vos vannes sur Olysée, là. Parce que.
Non, mais il est bien le jeune.
Thibaut, supporter des Verts. Tu veux jouer avec qui?
Il s'est fait virer des fraiseries.
Avec Pierrot et Dimeco.
Très bien.
Ok, zéro confiance en nous, Thibaut.
Ouais, les deux coqs, vous avez un cri de guerre, Stephen et Vincent? Ouais.
What time is it, Stephen? It's game time, Vavara.
C'est pas mal, belle version. On progresse, on revisite.
Bravo.
Beau, je me suis pissé dessus. Ah. Alors, c'est pas la peur, ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. C'est
10 minutes de Kikadi. Une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0 à la fin. Et Pierrot qui est en route vers un grand chelem.
Deuxième d'affilée.
Deuxième d'affilée, Pierrot.
Back-to-back, nous on fait tout en back-to-back.
Quand même un peu plus
d'humilité. Les choses par deux.
Pierrot, il ne se mouche pas en ce moment.
Là, il finit le mois de juin, là. C'est un peu avec des plumes de panne dans le derrière. J'ai l'impression d'être un flambeur. Vous voyez la crête haute. La crête haute, voilà.
Très bien.
Qui a dit? Je suis un meilleur joueur aujourd'hui qu'au moment où j'ai quitté l'Angleterre. Intéressant.
Courtney Loves.
Voilà, bien,
l'international anglais qui a passé 2 ans Pro D2 à Brive, qui dit du bien du championnat français.
Il a dit
Eric. Et Pro D2.
Il a dit là,
les Sharks de Sale. Courtney Loves. Non, tu
l'as pas dit. Si, Eric, mais ça ne comptera pas. Bon.
Il a aimé la France, Courtney Loves.
Loves, ouais.
C'est un bon niveau.
Brive, sympa, non?
Ben, il a aimé le championnat de Pro D2.
Si c'était du jour rugby à Brive, c'est super.
Ouais. Tu vas à la charrette, tu vas au Cardi.
Non, mais super. Hein.
BFM TV.
Pourquoi tu as fait qu'un an, non? J'aurais aimé rester un peu plus.
C'est une question hors sport. Qui qu'a dit? Si TF1 me rappelle pour refaire Mask Singer, pourquoi pas?
Bah, ça la gaffe.
Non. Pourtant, c'est un membre du jury qui est très, très, très connu.
C'est le danseur, là.
Il a dit qu'il se retire un peu.
Jean-Marc Généreux.
C'est un homme de radio.
Mais non, mais c'est
Généreux. Ruquier. Laurent Ruquier.
La Ruque, quoi.
Il arrête la télé, mais il dit si Mask Singer.
Mais la Ruque, il a fait jury de Mask Singer.
Oui,
je suis passé la dernière.
C'était
lui, hein.
Il était.
Ouais.
C'est des émissions qui n'ont aucun sens.
Les enfants, Pierrot.
Ouais. Non, mais on cherche le gars qui est camouflé dans un mauvais déguisement.
Respecte l'artiste qui est avec
toi. 2 à 1. Costume.
Ça, au moins, c'est se prendre un peu aux ailes.
Là, d'accord.
Ben voilà, Pierrot.
Que Michael Youn, il t'avait reconnu en une phrase.
Comme que l'enfoiré, lui, comment il doit pas.
Ils avaient mal masqué ta voix. T'es arrivé, t'as fait quoi ça
Il t'a fait tourner assez souvent pour te reconnaître. Quoi ça,
poulet. Quoi ça, poulet. Ah, mais c'est pas ça. Très belle enquête, Michael Youn. Qui qu'a dit ? Ah, on a la frontière entre le sport et le passeport. Sport politique. Mm-hmm. Qui qu'a dit ?
Mamdani,
bien sûr.
Putain, c'est failli dire ! C'est pas possible, le verbe New York.
Wembanyama est un joueur très difficile à détester. Évidemment, le maire de New York, Zoran Mamdani, est supporter des Knicks. Mais il avoue que quand
il a... pas commencé la question pour pouvoir donner une réponse.
Ah, il a dit Kikadi.
Je dis Kikadi, ouais.
C'est Zoran le Grec.
2-2, Zoran le Grec.
on est dans la vanne aujourd'hui.
Oui.
Zoran Larousse.
Question auditeur.
Non, mais j'ai peur que vous fassiez le sur Rire et Chanson.
Voilà, on y est déjà, là, sur Rire et Chanson.
C'est la famille de Mamdani Boum.
Mamdani Boum. Danny Boone.
Bon, 2-2, il reste un peu moins de 6 minutes.
Question auditeur. Très simple. Quelle équipe saison a terminé dernière de top 14?
Montauban.
Qui a dit Montauban en premier?
Xavier.
Oui, Xavier.
Voilà, bravo.
C'est la Xav.
Allez, Xav.
La Xav, supporter de l'OM.
C'est pour nous, 3-2 pour nous.
3-2
pour
nous.
Supporter de l'OM. Vincent, pourquoi tu parles en régie tout le temps?
Il influence.
Pas, mais j'ai le cours des choses.
Parce qu'il a un sport.
Mais attends, les gars, ça s'appelle le Moscato Show, je contrôle l'émission. Ouais, pour savoir si tout le monde est à son poste.
D'accord.
Et Suzanne, je te dis roupille.
D'accord.
Ça se fait les
Suzanne, elle te donne plus rien, quoi.
Question en un coup. Révisons.
Oui.
Notre Coupe du Monde de foot.
Ouais.
Révisons une équipe favorite de cette Coupe du Monde 2026.
Le Brésil.
L'Espagne.
L'Espagne.
Pour cette Coupe du Monde, qui est capitaine de l'Espagne?
Pedri.
Éliminé.
Ça, c'est une bonne question.
Capitaine. Attends, on va aller tous les faire
capitaine,
un par un.
Capitaine. Non, il faut réfléchir. Ça doit être. C'est Rodri, non?
Rodri, oui.
Excellent.
Wow. Mais oui.
Rodri, qui était ballon d'or, Rodri, quand même. Taulier. Manchester City.
3-3, égalité. 4 minutes 40.
Regarde-moi. Mais oui.
Il y avait une stratégie de triche, là, entre Stéphane et Innocent.
Non, c'est pas.
Bah non, on n'a pas le droit.
Mais non, parce qu'il regarde, que ça, je le motive.
Ah ouais, d'accord.
Regarde.
3 partout, il reste 4 minutes 20 et la régie doit se réveiller. Je vous rappelle, c'est l'enjeu de ces 4 minutes qui arrivent.
Qui a dit, c'est vrai qu'à 26 ou 27 ans, Paris, c'est super. Il y a plein de possibilités.
Kimpembe.
Je prends des cours pour apprendre, je vois de nouveaux endroits, je pars pour partir en voyage.
Non,
après, la vie plus tard, je ne la ferai pas à Paris, je pense.
C'est
quelqu'un qui est dans le rugby.
Ça peut être. Ah, dans le rugby.
Il est du sud de la France.
C'est du sud de la France.
Et sa réussite à Paris est plutôt surprenante. On est content pour lui.
Carbonel. Et bah oui, quoi.
Louis Carbonel, l'ouvreur du Stade français Paris, qui dispute le barrage face à La Rochelle.
La Roue m'a envoyé Michel Fourniret.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Non, c'est pas
merci
ça.
Merci, La Roue.
Louis Carbonel, qui se plaît à Paris, Vincent. Oui. Le Toulonnais, Carbo.
Carbo. Ouais. Il fait une belle saison, d'ailleurs.
Une super saison.
Super saison.
Bravo à lui.
Il devait partir.
Il y a des
questions en un coup.
Il y a des cannes, Carbo.
On révise la Coupe du Monde de foot. Dans l'histoire de la Coupe du Monde de foot. Intéressant. Quel est le joueur le plus vieux qui a disputé une finale?
Une finale?
Le plus vieux. Éliminé.
Merde. Le plus
une
vieux
finale.
Qui a une
Lionel
finale.
Messi? Éliminé.
Je vais dire Dinosaur.
Dinosaur.
Ouais, j'allais dire Bravo, Pierrot, j'allais le dire derrière toi.
Dinosaur.
Bravo, Pierrot. Il devait avoir 40 ans.
Gardien de but de l'Italie, 1982, 40 ans et 133 jours.
C'est ça,
champion
c'est ça.
Du monde.
Bravo. C'est sûr que c'était un gardien.
Ils ont fait 5 films sur lui. Jurassic Park.
Non mais là c'est pas rigolo. Là c'est pas rigolo, il faut pas rigoler
si,
les gars.
C'est beau. Ah,
ça c'est pas. Ah bah non, c'est pas rigolo, il faut pas rigoler.
Dans un parc, ils ont vu plein de dinosaures.
Ah bah non, mais si toi tu rigoles, t'as alors.
Ils ont mis deux cages.
Non, moi je suis affligé personnellement, mais bon.
Mais non, mais quand c'est pas rigolo, il faut pas rigoler les gars. Non.
Ils ont mis 4-5 dinosaures. Quoi.
Ils ont sorti des œufs là.
C'est pas rigolo.
5-3.
Vas-y.
Ça me fait rire.
Jurassic Park.
Je sais pas si ça fait rire les gens, mais en tout cas, ça me fait rire.
Mais non, personne rigole les gars dans les voitures.
BFM TV. Kikali. une personnalité politique qui parle. Hein, qui a dit ouais.
Karim Brahman.
Non, non, c'était surtout des encouragements.
Trump
qui a été hué hier à New York et qui dit après, non, c'était des encouragements, il me semble, sonore et enthousiaste.
Il
s'est endormi d'ailleurs.
C'est un phénomène.
Énorme sieste pendant le match.
Il s'est endormi. Je pense qu'il doit avoir des journées quand même un peu chargées, non?
6, 3 à 80 ans.
Ouais, peut-être la 80 piges.
C'est 20 euros pillon pendant le match.
80 piges, je te rends compte.
Question en un coup.
Je vous ai. Alice, quoi?
Coupe du Monde, je vous ai déjà posé la question il y a 4 ans sur la Coupe du Monde. Pour voir si.
Il y a 4 ans?
Ouais.
J'étais pas là, moi.
Quel est le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde qui a disputé dans sa vie 3 finales consécutives?
Ah bah c'est Cafu.
Cafu.
Ouais, tu l'as dit. Il y a 3 semaines, il y a 2 ans, il y a 1 mois, il y a 4 ans, on l'a fait il y a un mois, Cafu.
Ah, il pourrait s'en souvenir en régie aussi.
Parce qu'il sait que c'est bien, c'est Cafu.
C'est Cafu, il y a Cafu.
Tu sais, c'est moi, on l'a fait. C'est bien.
Ouais, il y a pas 4 ans, on l'a fait il y a 2-3 mois.
Quand même, ça c'est dirigé.
Du coup, il pourrait s'en souvenir en régie, Vincent.
Il faut recycler les questions.
7, 3,
94. 98, 2002.
Ouais, non,
il
mais
en
là,
a gagné 2 sur 3.
Pas tout le monde.
Ah, là, quoi ?
Bah non, soit. Ça, tu vois, c'est
quand même.
Combien ?
7, 3.
Pour qui ? Pour nous ?
Pour nous.
Ah merde.
Dans une BFM TV, on révise un peu la Coupe du Monde.
Ouais,
parce qu'elle se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Quel est le nom du Premier ministre canadien?
Oh là. Ah, c'est léger.
C'est plus Trudeau.
Comment il s'appelle
Il a un nom français.
C'est
il a
un coup,
nom,
c'est plusieurs coups.
C'est un plusieurs coups.
C'est quoi, Smith, c'est quoi
Black,
Robert Charlebois,
Davis, Williams.
C'est pas un nom français. C'est pas un nom français. Caris.
Marc Carney.
Oh, le connaît pas, Marc Carney.
Carney, c'est pas français.
Non.
Paul McCartney.
Paul
McCartney.
Carney, C-A-R-N-E-Y.
Cam, c'est vraiment le bazar. Hein.
C'est pas Jean Carmet, quoi.
Jean Carmet, quoi.
Quand même, Marc Carney.
Mais Carney, quoi.
Vous avez sniffé des trucs, non?
Vincent, il était chez le dentiste, il a pris des produits.
Non, mais. Non, mais ça
n'est que le
Trudeau,
son père. La Golden.
Ah oui, il y a la Golden.
Alors, il y a 7 à 3 en attendant.
7 à 3, 17h59. Dans moins d'une minute, c'est Rotten sans flamme. Pour l'instant, s'il n'y a pas de Golden Carotte, Pierrot Dorian est toujours en route vers un grand
chelem. Ah non, mais arrêtez de.
S'il y a une Golden Carotte, c'est 0-0.
C'est pas mauvais, je trouve.
Balle de match. Dans 40 secondes, c'est Rotten sans flamme. On parle de la Coupe du Monde. La Golden Carotte n'est pas là. Victoire de Thibaut.
Il y a une cabale qui est montée comme ça.
Bravo Thibaut.
Un bon Stephen survolté, des très bons jeux de mots. Bravo Stephen.
Allez, demain, dans le meilleur du Super Moscato Show, un duel Marquinhos-Mbappé qui a le plus marqué l'histoire du PSG.
Et du basket, de la NBA. Tipeee, Tony Parker, coach en NBA, c'est son ambition. Est-ce que vous y croyez?
Allez, à demain, 15h, et lundi, on est de retour en direct sur RMC.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.